France Culture, à voix nue, avec Pierre Michon, par Colette Fellous. Deuxième chapitre, après La maison des quarts. Le ciel est un très grand homme. Nous étions restés, Pierre Michon, hier sur votre mère, ici, au quart, puisque nous sommes en Creuse, dans votre maison, dans la maison de vos grands-parents, et j'étais restée en tout cas sur cette image de votre mère qui était, avant de mourir, qui avait les vies minuscules dans sa main, comme un livre presque de prière. Et dans votre nouveau livre, Corps du roi, vous dites qu'à un moment vous avez eu envie de prier.
Oui, je parle de sa mort, enfin de... Ma mère et les livres ont été mes passions. Et quand elle mourait, quand j'ai vu qu'elle mourait, je suis sorti acheter des livres. Je ne sais comment l'interpréter. C'est une horreur. Certains qui ont lu ce texte m'ont dit c'est affreux. Enfin, c'est une sécheresse de cœur absolue. C'est possible. Et j'achetais des livres.
Comme un secours, en fait.
Quand je suis arrivé près d'elle, avec ma pochette de livres, elle était tiède. Elle venait de mourir. C'est-à-dire, je m'étais réfugié auprès des pères fondateurs, écrivains. J'avais besoin d'un père pour voir mourir ma mère. Mais je ne l'ai pas vu mourir. Et peut-être qu'elle m'a cherché. Et elle s'est dit, il est parti dans ses livres. C'est avec ce genre d'événement qu'on devrait, seulement avec ce genre d'événement, qu'on devrait écrire des livres. Le reste n'a pas d'importance, on s'en fout.
C'est seconde.
Oui. Peu de choses tiennent à cœur à un homme. Ses destins, c'est-à-dire sa parenté. Ses quelques amours. Sa mort. Ce qu'il dit, pour moi. Mais c'est une perversion. Et encore, en est-ce bien une? Parce que est-ce que le propre de l'homme n'est pas d'être un être de raison, de verbe, de langage, et donc de littérature? Donc oui, ses fatas, enfin ses destins familiaux, ses amours, sa mort, et le langage qui tient lieu de mortier entre tout ça. Le langage écrit, pour moi, pour tout le monde, pour tout le monde. Même les petites légendes que se font les gens de tous les jours, enfin, sont en quelque sorte des légendes écrites, qui ne sont jamais décryptées, qui ne sortent jamais au grand jour, mais qui sont dans leur esprit, qui les tient debout, avec la joie dont je parlais. Mmh. Mais la joie, c'est ce qui nous empêche de succomber. À nos familles, à nos amours, à la mort et à la littérature. Ou c'est ce qui porte tout ça. Sinon, c'est de la littérature. Enfin, j'adore la littérature, je ne crois pas qu'elle doive être un exercice talentueux ou elle doit être un exercice de réhabilitation de nos propres vies, sans arrêt.
Et c'est ce moment, d'ailleurs, quand vous dites que vous avez prié, près de le besoin de prier en lisant un texte, pas une vraie prière, et enfin, c'est une vraie prière aussi, vous la mettez aussi en relation avec la naissance de votre fille. Et il y a toujours ça, ce moment, quand on dit le deuil et oui. La naissance, la joie et la blessure, qui sont toujours ensemble, qui courent ensemble toute une vie, qui ne se lâchent pas en fait, qui ne se lâchent jamais.
Et même pendant la mort,
c'est toujours ça, oui.
Il y a une étincelle de joie. La mort peut être une... On disait jadis, quand on croyait en Dieu, on disait... il est revenu dans les bras du Seigneur, etc. Mais on se dit tous quelque chose comme ça, même si on ne parle pas de Dieu ou de... Il y a un facteur de joie. Une joie terrible, une joie âpre, mais une joie. Moi, je sais, là, enfin, vous parliez de la prière que j'ai dite. Devant elle, enfin, j'ai essayé de prier, oui, j'ai essayé de dire des trucs que j'avais appris au catéchisme, ça. Aucun sens. Et tout à coup, je me suis dit, je l'ai bien vu, je me suis dit, c'est un cadavre, c'est un corps mort. C'est un corps mort, c'est un mort. C'est un mort, et moi, je suis un vivant, je suis. Et vraiment, ce truc de Villon, frères humains qui après nous vivaient, est venu tout seul. Enfin. Mmh. Et je me suis dit, pour la première fois, je me suis dit, mais ce texte n'est pas un texte dit spécialement par des pendus, c'est dit par des morts. C'est des morts. C'est des morts qui parlent des vivants. Frères humains qui après nous vivaient.
Parfait. Ça vous est revenu comme ça, soudain?
Ça m'est revenu, vraiment, mais avec une force. Je me suis dit, c'est la seule chose que je puisse dire. Et je l'ai dite. Donc, la littérature sert vraiment à quelque chose. Faire parler des morts qui sont nécessairement un petit peu pas contents d'être morts, à des vivants, mais quand même, ils sont polis avec les vivants. Pensez à nous. C'est comme le Baudelaire, les morts, les pauvres morts.
Oui.
J'aurais pu dire ça, c'est pas ça qui est venu. C'est pas ça, la servante aux rancœurs. Ah oui, j'aurais pu le dire, ça aussi. Tiens, ben non, c'est Villon qui est venu. C'est Villon qui est venu parce que je voyais le cadavre. Et que dans le poème de Villon, on voit le cadavre. On voit les cadavres. Dans la servante au grand cœur, non, on voit la tombe. C'est beaucoup plus apaisé.
Et à la naissance de votre fils, c'est Boz endormi. C'est cet espoir aussi des générations, de ce rêve. Dans le poème de Hugo.
Oui.
Il vous a suivi, ce poème. Il est né tôt dans votre vie.
Oui. C'est ma chanson à boire. C'est ma chanson à vivre. C'est quelque chose de magnifique. Je ne veux pas en parler. Enfin, je ne peux pas en parler. Que dire de Beaux endormis? Tout le monde le connaît. Tout le monde.
Pas vraiment. Vous pouvez le lire aussi, peut-être.
Je le lirai tout à l'heure. Oui. Je le lirai. C'est une merveille, parce que c'est une histoire de paternité. Sans toute puissance paternelle. Le travail est fait par la femme. La femme demande quelque chose. Elle l'obtient. Et l'homme dort. Lacan a fait, je ne sais pas si vous connaissez, une très belle page sur Beauze, où il dit, Beauze, il dort, c'est-à-dire il est comme nous, il en comprend ce qu'il faut comprendre, et c'est tout.
À chacun de travailler.
Oui.
Comment vous le comprenez, vous, alors, Pierre Michon, ce poème?
Ce poème m'a toujours ému considérablement. C'est Lacan encore qui dit que c'est le poème de la paternité massive. Massive, mais inoffensive. Et j'ai toujours eu des problèmes avec la paternité, étant donné que mon père, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas pu ni le mettre à mort, ni l'aimer.
C'est un disparu.
C'est un disparu.
Fugitif.
C'est une ombre. C'est une ombre. Et je dirais bien que quand je disais, parce que j'ai appris par cœur très vite Beauze, quand je disais Beauze dans les larmes à 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne savais pas de quoi je parlais. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je parlais d'une naissance secrète. Est-ce que j'étais Beauze? Est-ce que Beauze était le père endormi? Je ne sais pas. Et j'ai sans doute compris Beauze pour la première fois quand je l'ai dit après la naissance de ma fille. J'ai compris. J'ai dit voilà, c'était là. Ça venait là. Ça butait là. C'était là.
Vous le disiez en aveugle presque.
Voilà. Ça m'appelait depuis 50 ans. Ouais. Ce poème m'appelait. Il est là. Il est clos. Je sais ce que c'est, non pas parce que j'ai compris davantage le poème, mais parce que Je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Non, non, c'est trop de dire ça.
Je sais pas, non, c'est
personne,
vrai. C'est...
Personne ne peut accomplir ça, c'est trop beau. Parce que la descendance, c'est Jésus-Christ. Enfin, c'est pas... c'est David d'abord. C'est David et Jésus. Enfin, c'est les grandes descendances. Et tout ça d'un vieil homme qui dort, qui est fatigué, qui a fait la moisson. En plus, c'est un poème que j'adorais, oui. Parce que
c'est l'été.
C'est un poème c'est... rural, ouais. C'est un poème... Rien, rien.
Puis c'est le rêve. C'est et le aussi, rêve aussi, c'est comme. Rêve.
Rien ne m'a fait en littérature autant d'effet que ce poème. Jamais. On a quelques bricoles comme ça dans le coin de nous-mêmes. On se resserre à toutes les sauces, sans arrêt. Enfin, vous avez les vôtres, je ne sais pas lesquelles c'est. Enfin, c'est des choses secrètes presque, c'est de l'intimité. On se les resserre, on se dit mais oui, voilà, c'est ça. Ce sont des vers assez plats, que les vers de... Enfin, très beaux, mais... Hier matin, le fermier à côté, je lui dis, t'as coupé ton blé. Il me dit, non, j'ai pas fait le blé, j'ai fait les orges d'hiver. Ah, je dis les orges d'hiver. Et je me rappelle que les orges d'hiver, c'est pendant la moisson des orges que Ruth va voir Bose. Donc,
ah oui, donc il y a des... Des rencontres de hasard et qui sont en même
c'est
temps.
Pas des rencontres mais c'est de pas... hasard, non. C'est ce poème est aussi greffé sur la vieille civilisation agraire, qui a été mon enfance, donc que je connais, enfin que je. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Colette là?
Rien.
Je lise Beaux endormis, on a.
Ah oui, minutes, oui, je veux bien. Oui.
Non, c'est pas celui-là.
Non, mais c'est. Oui, parce que vous avez vécu en fait. Dehors, dans les champs, vous avez assisté à
dans
tout,
les champs,
enfin dans les champs.
Dans les champs.
Vous avez assisté.
N'exagérons pas.
Moi, oui,
j'ai fait un petit peu les moissons et les foins, mais ma mère était institutrice, donc je faisais ça chez les paysans du coin pour m'amuser. J'étais pas astreint à le faire.
Oui, mais il y a des bruits. J'aime bien quand vous dites le bruit des moissonneuses batteuses, qui est comme aussi comme une mémoire au travail comme ça qui est là toujours.
Et oui, c'était une rencontre de la civilisation industrielle. Et de la civilisation agraire. C'était superbe, les batteuses. Mais maintenant, les moissonneuses, c'est pareil. Enfin, c'est des machines superbes. J'ai souvent envie... D'ailleurs, j'ai placé une moissonneuse-batteuse dans la Grande Beune. Dans la Grande Beune, il y en a une John Deere.
On la voit, oui.
Une John Deere. j'adore ces machines. Parce que c'est une prise directe de la civilisation technicienne, matérielle, industrielle, sur... Les orges du néolithique. C'est un carambolage historique extraordinaire. Et quand on voit les paysans vivre ça, c'est extraordinaire aussi. Parce qu'ils se débrouillent bien. Ils se débrouillent très bien avec toutes ces machines et tout ça. Ils sont à la fois comme Bose et comme Jules Verne. Quoi. Comme Jules Verne maintenant. C'est un peu vieux, Jules Verne. Mais...
Je vais fermer la porte peut-être, non ?
Il y a si tu veux.
Un courant d'air, non ?
C'est le feu qui repart.
Oui, mais c'est pas à cause.
C'est le feu que t'entends.
Oui, c'est vrai que ce Bose, endormi, est un moissonneur, il rêve. Et c'est une étrangère, en fait, qui regarde la lune. J'aime bien aussi ce détail.
Oui.
Elle regarde la lune et elle lui offre on peut dire, la possibilité de l'incarnation aussi.
Oui.
C'est ça que vous dites.
Et elle offre la paternité
à
Bose. Il y a un texte de Peggy que vous connaissez sûrement, Victor-Marie Comte-Hugo, vous ne connaissez pas ?
Non.
Où il parle du jour, c'était le 1er mai 1859, où Hugo a eu l'idée et a écrit « Beaux endormis ». Et il dit « Ce jour-là, il a ressaisi le pouvoir régalien ». C'est pour ça aussi que c'est dans un texte qui s'appelle « Corps du roi ».
Ouais.
C'était plus du talent. C'était pas exagéré, c'était juste, d'un bout à l'autre. Et quand on est aussi mégalo, aussi fou qu'Hugo, faire un texte limé, juste, sans chose qui dépasse, c'est pas rien. C'est pas rien. Je crois que... Je ne crois pas, tout le monde le croit. Borges le croyait. Il y a des grandes œuvres, il y a des grands morceaux. Il y a des morceaux qui sont vraiment... C'est... Une fois Beaux endormis écrit, l'Alexandrin n'a plus de raison d'être. C'est fini. C'est le sommet de l'Alexandrin. Le bateau ivre est très beau, mais le bateau ivre vient directement d'Hugo. Directement. C'est un codicille à Hugo. Très beau, parfait. Mais, beaux endormis, fin de l'Alexandrin. 1er mai 1859. Et il avait à ce moment-là 57 ans, âge qu'a votre modeste serviteur.
Voilà, donc tout le puzzle se reconstruit.
Non, je n'ai malheureusement pas écrit Beaux Endormis.
J'aime beaucoup ce que vous dites aussi, que vous avez porté ce poème longtemps, sans le savoir, autour de cette question du père.
Je l'ai dit sans cesse.
Ouais. Et il y a aussi ces scènes, aussi, on peut dire, fondatrices. Il y a une scène aussi qui revient dans tous vos livres, c'est une porte ouverte. On peut dire que Beauce, c'est aussi ça, l'entrée dans le rêve, et qui après, une porte ouverte, une grange, l'été, et puis une scène d'amour, puisqu'on a parlé de la mort de votre mère, la naissance de votre fille. Mais il y a aussi, comme ça, une scène qu'on devine, qu'on entend, qui se mêle au bruit de l'été. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait... qui a été
sûrement, de ma
une envie
part,
d'écrire.
Oui. Bien sûr, enfin, je le raconte, j'ai entendu Beauce endormi pour la première fois à l'école du village où j'étais à l'école. Enfin, l'instituteur nous disait des poèmes en été, enfin, à la fin de l'année. Et il a dit ce poème, une parenthèse là sur ces instituteurs magnifiques.
Oui.
Qui étaient vraiment des types...
Oui, qui vous ont vraiment donné vraiment, le goût de la langue, de la littérature.
Quoi, parce que, bon, ce garçon qui m'a lu ce poème, enfin, qu'il a lu à une école, quand il n'était pas biblique, il n'était pas curé, il en bouffait plus tôt. Enfin, il ne comprenait pas bien non plus ce poème. Il le comprenait, comme dit Lacan, il comprenait ce qu'il fallait en comprendre. Il était endormi, comme Beauce, mais il comprenait très bien ce qu'il fallait comprendre. Et ces types étaient admirables parce que je pense à tous ces mots, tous ces toponymes bibliques et tout ça que ce garçon ne connaissait pas. Il s'en foutait, il passait là-dessus, il voyait que c'était une poésie faite au cordeau, bien faite, et qu'il disait des choses essentielles. Et à des petits-enfants de la campagne qui avaient 8 ans, il le lisait au retour d'une promenade dans la campagne où on avait fait de la botanique. Et les petits-enfants... Écoutez,
stupéfait.
Tout oreille dehors, un truc auquel ils ne comprenaient absolument rien, où ça ronflait, comme chez les Australiens, là, les bull rollers, les boomerangs ou les chewing-gums qu'on fait tourner. C'est vraiment, c'est pareil, quoi. C'est du rythme essentiel. C'est le rythme de la vie, de la génération, de la filiation, de l'amour, des blés qui rentrent,
des saisons,
de la lune.
De la lune.
C'est parfait. On ne peut pas faire les choses comme ça. Si j'avais écrit Beauce endormi, je pourrais me balancer définitivement dans le hamac de l'être.
Quelle formule ?
Pas de moi.
Ah bon, de qui ?
Beauce endormi, qui est une chose pleine d'éclat et pleine de désir. M'a sûrement servi de souvenir écran pour des choses sexuelles. La première fois que je l'ai entendu, à 10 ans. Je ne sais pas si ce que je rapporte est ce à quoi Beauce endormi a servi d'écran. Je ne sais pas. Je sais que ça a existé, mais était-ce la même année ? Je dis que oui, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Mais il y a des choses sexuelles qui sont cachées pour moi dans Beauce endormi, puisque c'est un poème d'un bout à l'autre sexuel, puisque une femme s'offre. Une femme s'offre, elle s'appelle Ruth. On ne peut pas dire qu'Hugo n'avait pas le sens des homonymies. Et quand on a un vers comme Ruth, une Moabite, on dit d'accord, très bien. Mais les doubles sens, les clics, les déclics sexuels sont en marche sans arrêt. Et il l'a fait non pas du tout avec Rory, Hugo. Il l'a fait... naturellement, et en disant, ben ouais, c'est rigolo, plaf, et là, il a continué. Et jamais, cette chose sexuelle, qui est, c'est ça aussi qui est magnifique, qui est dans Beauce endormi, quoi qu'elle soit au premier plan, jamais elle n'envahit rien. La lune et les blés sont aussi forts que l'érection rêvée de Bose. Rêvée, pas tout à fait. Tout ça est...
C'est comme un tableau.
On pense à Poussin, bien sûr. On pense à Poussin. C'est du Poussin. C'est du Poussin. Et c'est bien aussi que Bose, qui était un romantique frénétique, tout à coup soit devenu une sorte de classique. C'est un texte, c'est le seul texte, peut-être, entièrement classique de Hugo. Pourquoi on parle sans arrêt.
Et cette scène primitive, donc, c'est...
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas, hein, c'est... sais pas. Vous l'avez...
Peut-être celle que je dis, mais je ne
sais pas. C'est pas sûr, oui.
Elle n'est pas primitive, j'avais 10 ans.
Oui.
Elle n'est pas primitive. Mais une scène sexuelle.
On ne l'a pas lu, le poème ?
Non. Est-ce qu'on a le temps de le lire, là ?
On le lira plus tard, ça ne fait rien.
Oui.
On pourra le lire... demain, peut-être. Mais c'est ce père, en fait, de, vous dites que Hugo est aussi un père.
C'est un père-mère. C'est le père et la mère. C'est Jean Valjean. C'est Jean Valjean. Jean Valjean était le père mystique de Cosette, dit-il. D'ailleurs, si vous regardez les traits d'Hugo, il a quelque chose d'une femme. On dirait une vieille chko indienne.
Ah, j'ai pas jamais quand il pensé. Ah,
ouais. Une petite mollesse féminine. Il a accepté. Hugo, c'est ce que disait Artaud, je suis un être humain entier, ayant les deux sexes de l'esprit. Et c'est... Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait un truc sur Artaud dans Les Corps du Roi. Mais je ferai un jour ou l'autre un texte sur Artaud. Artaud, Hugo, ils auraient été très bien ensemble, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'aurais dû faire un texte à deux entrées, Hugo, Artaud.
Mais là, l'entrée est très belle avec Beckett aussi,
oui.
Avec, et son Boyard.
Oui.
Et Flaubert, bien sûr, Flaubert. Qui est aussi un père de misère.
Mmh. Oui, il voulait surtout ne pas être père.
Voilà. Flaubert. On pourra revenir peut-être sur Beckett et sur Flaubert, parce que c'est très, très beau aussi les moments que vous trouvez pour entrer dans les... Oui. Dans les textes, dans les textes des pères, par surprise. Oui. Et là, ce moment où Flaubert vient de finir la fin de la première partie de Madame
Bovary.
Voilà,
oui.
Quand il vient de finir la première partie de Madame Bovary. Et ce moment que vous captez comme ça, que vous saisissez et vous vous arrêtez, vous le regardez,
oui.
On le regarde aussi.
Oui, Flaubert. C'est bizarre, ce texte que j'ai écrit sur Flaubert, là, est un texte un peu critique sur Flaubert. Et pourtant, j'aime Flaubert passionnément. Mais il fallait que je... Il nous a fait un sale coup, Flaubert. Il a fallu qu'on se mette moine, qu'on se mette... C'est comme Baudelaire et Mallarmé, quoi. Ils nous ont fait un sale coup. Ces trois nous ont fait un sale coup. On s'est mis moine, on s'est mis à souffrir, à se prendre la tête, à dire « Oh mais non, la vie, c'est pas pour moi. » Ou comme disait Villiers-l'Isle-Adam, « Les domestiques vivront à notre place. » Oui, d'accord, bon, d'accord. Non, c'est un sale coup. Ils ont fait un sale coup à la littérature. Un bon coup aussi, puisqu'ils ont fait des belles œuvres, ils ont permis des belles œuvres après. Mais ils ont fait une sorte de chantage à leur personne. À leur personne. Disant, voilà, moi je souffre pour quelque chose, pour faire des belles phrases, etc.
Ça suffit. On ne veut
suffit.
Plus de. Oui.
Ça suffit.
De
mais
cette
oui,
image
on souffrait déjà avant pour faire des belles phrases.
Oui.
On souffre depuis, mais ce n'est pas Flaubert, ni Baudelaire, ni Mallarmé qui l'ont inventé. Dire, c'est surtout Flaubert et Baudelaire, parce que Mallarmé était différent. Mais Flaubert et Baudelaire ont fait un entrisme narcissique éperdu dans la littérature et narcissique négativiste. Ils ont dit non, on ne jouit plus. On ne jouit plus, voilà. Ce qui était faux d'abord, parce qu'ils jouissaient l'un et l'autre... de très bonne façon. Et ensuite, ce qui a fait une postérité d'épigone, déplaisant.
On va terminer peut-être cette rencontre aujourd'hui, Pierre Michon, par cette citation, peut-être. Voilà, c'est cette phrase que vous dites que j'aime beaucoup dans Corps du Roi. Pour appeler Dieu sa propre parole, il faut se fendre les boyaux. Pour sérieusement appeler littérature sa propre parole, il faut se coudre le masque à pleine figure, sans anesthésie.
Ça, c'est Flaubert.
Voilà. C'est... Merci Pierre Michon. Donc demain, la suite, une violente liberté. À voix nue, Colette Fellouz, réalisation, Bruno Sourcy.